vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, la palme d'or.
Uno, un, tout, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, un, tout, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Une réalisatrice française embarque sa caméra en Israël. Un cinéaste israélien pose la sienne à Paris. Deux regards croisés sur deux hommes, deux protagonistes en colère qui cherchent à réparer un passé et ou s'interroger sur leur identité. Bref, deux grands films chocs débarquent sur nos écrans français et sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Renaître à Paris, est-ce possible? Avec l'espoir que la France et les Français le sauveront de la folie de son pays, Israël. J'allais dire bonjour Nadav Lapid, mais il ne va pas tarder à arriver. Méchant, obscène, ignorant, hideux, vieux, sordide, grossier, abominable, fétide, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, peut-on lire sur l'affiche au-dessus du film de son troisième film, synonyme, le premier tourné en France, il y a vécu et il revient sur les lieux pour les faire revivre par le cinéma. Et quel film, Ours d'or à Berlin, synonyme sort mercredi prochain. Un autre retour, mais sur les lieux du crime, Bnei Brak, quartier de Tel Aviv, capitale des juifs ultra-orthodoxes. Bonjour Yolande Zoberman.
Bonjour.
C'est là-bas que vous avez filmé Menachem, abusé 15 ans plus tôt par les membres de sa communauté. Menachem, un enfant à jamais meurtri sur la route de la résilience. Votre film s'appelle M, il est sorti mercredi. À côté de M, cette semaine, d'autres regards entre Dernier amour de Benoît Jacquot, Sunset de Laszlo Nemes, La Flore 2, Résistance, Leur résistante, Leur souffle ou L'homme qui a surpris tout le monde. Voilà, c'est parti. M, le film comme Menachem ou M le maudit, prédateur d'enfants. M, Menachem, cet ex-enfant prodige à la voix d'or comme sur cette plage. C'est le début de votre film, Yolande Zoberman. Et dès le début, cette confession.
J'étais Menachem Lang, enfant chanteur, mais j'étais un porno-kid. Je ne sais pas comment on dit ça en hébreu. J'étais un garçon qui... Comme dans les bases, il y avait des filles pour les militaires, juste pour le plaisir. J'étais un enfant pour le plaisir. Pour les autres hommes. Quand tu es un enfant, à chaque fois que tu subis une chose pareille, c'est la première fois pour toi. Même si tu as vécu la même chose hier, c'est chaque fois la première fois. Mon âme est à lui, mon corps est à lui, à Dieu. Ni mon âme, ni mon corps n'était à moi, ni à Dieu. Mon âme était à celui qui me frappait et me tripotait. Mon corps et mon âme étaient à lui.
M commence très fort, Yolande Zoberman, Menachem. Vous l'avez découvert à l'écran dans un film d'Amos Gitai qui s'appelait Kedma. Ensuite, vous avez trouvé ce blog sur des enfants ultra-orthodoxes qui ont été violés et cette séquence où Menachem a filmé son violeur en caméra cachée. Et cette histoire folle, vous avez décidé d'en faire un film. Comment vous avez réussi à convaincre Menachem de retourner là-bas?
En fait, c'est lui qui m'a convaincue.
Oui.
C'est-à-dire que je croyais qu'il faisait un film parce que sur le blog, il y avait une séquence filmée avec une caméra cachée où il y avait un de ses violeurs qui avouait tout. Et je pensais qu'il faisait quelque chose et je lui ai dit « peut-être je peux t'aider à trouver une production en France ». Et il m'a dit « mais non, j'ai fait ça il y a 10 ans et j'ai reçu beaucoup de menaces et j'ai arrêté ». Et après, je suis rentrée à Paris et il n'a pas arrêté de m'appeler en disant « faisons-le ce film ».
Un de ses violeurs, c'est-à-dire qu'il a été donc violé par un rabbin très petit et ensuite par d'autres hommes qui s'occupaient de son éducation religieuse.
Ouais. Et Bnei Brak, ce n'est pas un quartier de Tel Aviv, c'est à 20 minutes. C'est à 20 minutes de Tel Aviv. C'est une ville.
Il faut dire ce que c'est.
C'est une ville de 180 000 habitants.
Ouais.
Et c'est ce qu'on appelle la ville des hommes en noir, des haredim, des craignant Dieu, des gens tremblants devant Dieu. Et c'est vrai qu'il nous a amenés là-bas, c'était le meilleur ouvre-boîte du monde. Normalement, j'aurais jamais dû rentrer dans ce monde. Je suis une femme, je suis pas religieuse.
C'est une ville sans police, dites-vous, dont l'autorité est tenue par les rabbins, et la ville est tenue en gros par 5 grandes familles, c'est ça ?
Un peu plus. Il y a, je ne sais combien de dynasties, mais c'est des vraies dynasties. Mmh. Et à la tête de ces dynasties, il y a un rabbin qui dirige la dynastie d'une main de fer. Et c'est vrai que il n'y avait plus de poste de police parce que c'est les rabbins qui s'occupaient de tout.
Avant d'arriver sur le tournage, il faut dire que ce jeune Menahem, à 20 ans, a rompu donc avec cette ville natale. Il a abandonné ses habits religieux, il a coupé ses papillotes, il est allé vivre à Tel Aviv et est devenu acteur plus tard. Dès le début, on se dit ce garçon est fou, il a une espèce de logorrhée verbale et après on comprend. Mais c'est une blessure ambulante, Menahem.
Oui, et je pense que pendant le film, tout le chemin était un chemin de réparation, un chemin de consolation aussi. Parce que d'une certaine manière, on n'est pas rentré avec du même pied dans le film. Lui est rentré pour se venger, moi je rentrais parce que j'avais le sentiment que les gens que j'allais filmer allaient me dévoiler une espèce de secret sur cette blessure universelle qu'est le viol.
En fait, c'est un peu Menahem qui mène le film, puisque c'est lui qui mène l'enquête.
Non, c'est vraiment une espèce de danse à deux, où il n'y avait pas de plan de travail, où chaque jour il fallait inventer l'endroit où on allait être.
Et chaque nuit, si vous me permettez.
Parce
que c'est un film de nuit.
Hein. Ouais, c'est un film.
Pourquoi ce choix-là ?
Parce que la nuit c'est sensuel, parce que la nuit on a le temps, parce que la nuit il y a des gens qui errent, parce que la nuit les gens qui parlent prennent le temps de parler, parce que il y avait et puis très vite j'ai eu le sentiment de filmer un film de vampire en fait, parce que d'abord on était beaucoup dans un cimetière qui était le cimetière où Menahem s'est réfugié quand il est parti, et on rencontre ce jeune garçon qu'on suit après qui devient le présent du film parce qu'il a peur de se marier, il sait pas s'il va pouvoir rendre une femme heureuse, et voilà, on le suit à son mariage, à son divorce.
On va dire bonjour à Nadav Lapid. Bonjour Nadav.
Bonjour.
Je sais que vous avez eu quelques petits problèmes de circulation. Tiens, je vais vous mettre tout de suite dans le bain, devant ce doc ahurissant qui s'appelle M, de votre voisine que vous connaissez déjà, Yolande Zobermann. Quel effet vous a fait ce film ?
Non, absolument. Félicitations pour ce film. Je l'ai vu il y a 2 jours. Et je suis toujours en train d'y penser. Enfin, je trouvais, je dois dire que bon, le film est super, mais je trouvais aussi, enfin, j'ai senti une énorme proximité avec ce film, avec cette idée de cette identité qui englobe cette personne, cette fascination envers tes propres douleurs, avec ta propre souffrance, avec tes propres cicatrices, le fait que tes propres cicatrices sont d'une certaine manière la seule chose que tu as dans ce monde, ou quelque chose qui t'est là jamais, ou la chose auquel finalement tu reviens toujours. Et puis ces langues, cette yiddish, ces langues qui est une sorte de secret, une sorte de langue magique, et dans laquelle toi, Yolande, tu mènes tes discussions avec M. Et encore la vivacité de l'image. Enfin, il y a quelque chose, je trouvais, de tellement physique, tellement charnel, tellement cru dans cette personne qui est magnétique. Bon, je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais félicitations.
Et qui rencontre, bizarrement, alors ça, ce sont les miracles, entre guillemets, du documentaire. Vous l'emmenez il vous emmène dans un cimetière où il a été violé une première fois par un rabbin, et là débarquent d'autres hommes qui racontent leurs expériences. Mais c'est fou comme la parole est libre.
Alors, c'est ce qui sidère tout le monde, c'est ce qui m'a sidéré moi aussi. Mais on a affaire à des gens qui sont ou ouverts ou fermés. Et quand ils sont ouverts sans limite, parce qu'ils sont pas formatés, en tout cas pas formatés comme nous. Et parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Et du coup, il n'y a pas de retenue non plus. Et ça, c'était assez... Et puis, il y a un rapport à la vérité. Il y a un rapport à l'honnêteté. Il y a une recherche comme ça, il y a un questionnement incessant. Et il y a cette obsession qu'ils ont de ce qu'ils appellent le galgal.
Oui.
C'est-à-dire le cercle vicieux, que j'avais jamais entendu nulle part.
De pas violer après avoir été violé, c'est ça?
Voilà. Et c'est ce qui fait qu'en plus du cimetière, j'avais le sentiment de faire un film de vampires. Ils avaient tous tellement peur de devenir violeurs.
Mais il n'y a pas d'impunité là-bas dans cette ville, je crois. Il y a une impunité, pardon, il n'y a pas de...
Mais on ne peut pas porter plainte s'il n'y a pas de police, tout simplement.
On peut porter plainte à l'extérieur de la ville.
Oui, c'est ça, mais pas à l'intérieur.
Pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est les rabbins et c'est les rabbins qui s'en chargent. Et en général, ils font juste une petite semonce en disant « Non, 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 il ne faut pas continuer à violer ». Et quelquefois, ils envoient les violeurs dans des groupes de parole qui sont assez intelligents, ceci dit, qui sont un peu basés sur les narcotiques anonymes, un programme en 12 étapes. Et voilà. Mais maintenant, ça a changé parce que la police s'en est enfin mêlée et qu'il y a eu des rabbins pour la première fois qui ont été mis en prison. Et donc, comme ils n'ont pas envie d'aller en prison, il y a quelque chose qui est en train de changer.
Mais il n'y a pas de complainte ni de narcissisme dans leur récit.
Oui, parce que je pense qu'il y a d'abord une espèce d'émerveillement de pouvoir partager leur expérience avec d'autres. Et plus ils étaient au centre de leurs blessures, de leurs cicatrices, effectivement, plus ils devenaient radieux d'une certaine manière. Et du coup, il y avait des choses quand même relativement hallucinantes, parce qu'on parle des rencontres, mais il y a cette rencontre sur le port de Jaffa, qui est quand même la partie arabe de la ville, parce qu'à la limite, rencontrer des gens à Bnei Brak, c'est déjà incroyable, les rencontres qu'on a faites. Mais là, c'est encore plus improbable. Et cet homme qui a l'air de sortir de la mer, qui arrive, et qui très vite dit que non seulement il a été violé, mais qu'il a violé lui-même et qu'en fait il a été s'excuser auprès des parents de l'enfant pour que l'enfant sache que c'est pas lui qui est en cause et que l'enfant lui-même ne reproduise pas le cercle vicieux, est devenu une espèce de héros pour les autres. Et ça, c'était aussi hallucinant, quoi. Et du coup, il était presque un conseiller sexuel pour les autres, qui, surtout pour ce jeune garçon qui allait se marier, qui connaissait rien aux filles, quoi.
Menarem a subi un gros déficit de tendresse, de la part de sa famille, d'où cette éducation religieuse avec d'autres hommes qui un peu comme un recours de tendresse. Et là, il y a cette scène incroyable où il affronte son père, il lui raconte, et voilà comment le père réagit.
Alors, c'était un viol avec pénétration. Je me souviens que je suis rentré à la maison. Vous vous souvenez peut-être de ce jour où j'ai pleuré toute la nuit et vous ai dit que vous me manquiez.
Je ne suis pas sûr que tu puisses te souvenir d'un viol avec pénétration à 4 ans.
Je me souviens de chaque seconde.
Il était âgé ?
C'était un étudiant.
J'ai une question. Pourquoi les as-tu laissés te toucher ?
C'est la question la plus énervante.
Je sais.
Tu veux que je réponde vraiment à ta question ? Il faut plusieurs circonstances pour que tu te laisses toucher.
Je peux entendre les réponses, mais moi, ça ne me suffit pas. Et je vais te dire pourquoi. Quand j'étais enfant, il a été très clair très vite que beaucoup de personnes essayaient de nous toucher. Je n'ai jamais laissé personne me toucher.
Et ensuite, que Lanz Oberman, le père, évoque le sort du frère de Menarem, qu'il comprend beaucoup plus que Menarem lui-même. Mais c'est affolant, cette scène, on a envie de crier, quoi.
Absolument. Et alors il y a plusieurs choses. C'est d'une part le problème de tous les gens qui ont été violés. Et je pense que le rêve du film, c'est d'une certaine manière de quitter cette honte. Et cette honte qui est responsable. Parce qu'au fond, le plus grand crime autour du viol, c'est le silence. Et parce que c'est dans le silence que ça se multiplie depuis la nuit des temps partout. Et donc cette honte que le père comme ça évoque en disant « Mais pourquoi? Comment tu t'es laissé toucher ?» En disant « Moi... » Alors le père, en fait, est un converti. Il était chrétien à la base, français chrétien. Et donc c'est dans sa propre communauté qu'il a risqué à plusieurs reprises d'être touché. Parce que c'est un problème. Moi, depuis que j'ai commencé ce film, j'ai réalisé que c'est un problème, mais tellement fréquent depuis toujours. C'est invraisemblable. Et même d'une certaine manière, depuis que je suis enfant, je me dis pourquoi tant de haine? Et je me dis que c'est au fond. Et là, ici, dans ce film, j'ai trouvé un tout petit bout de la réponse. Parce qu'on vient d'un monde qui a été souvent violé. Et que ça change tout. Ça change le rapport à l'obéissance, à l'autorité. Ça change le rapport à la cruauté. Et pas uniquement la sexualité.
D'ailleurs, vous voulez, ça vous intéresse pas de faire de ces gens des victimes, dites-vous, hein. Vous trouvez que c'est les blessés encore une fois.
Absolument. Moi, j'ai toujours décidé de filmer les gens qui avaient vécu des choses difficiles comme des héros de leur propre vie. Et c'est vrai qu'avec Menachem, on filmait dans la nuit tout le temps, mais on cherchait de la lumière aussi tout le temps.
Mais Menachem, il a adoré cette enfance en même temps, je veux dire, cette communauté, ses chants, ses fêtes, etc. Il est très nostalgique de sa soril.
Non, parce qu'il y a une capacité...
Il y a une horreur et à la fois une joie. Mais il y a un mélange.
Il y a un mélange, mais c'est toujours ça l'amour, non? Et en fait, il arrive à dissocier, en tout cas pendant le cours du film, parce qu'au départ pas du tout, il arrive à dissocier la blessure de l'ensemble de la communauté.
On entend d'ailleurs ce que vous avez réussi à filmer dans les endroits interdits normalement aux femmes, mais on vous a laissé filmer partout, Yolande.
Bah, c'était assez magique, moi je dois dire. Il y a une ou deux fois où j'ai dû laisser la caméra à un homme, mais c'est, j'ai effectivement filmé à peu près partout. Et je sais pas, j'étais invisible et je pense que, étant donné que tout ce qui était compliqué était pris en charge, était absorbé par la blessure, je pouvais montrer aussi mon amour. Et je souriais tout le temps parce que j'en revenais pas de, qu'on me laisse passer aussi proche, qu'on me laisse, filmer autant, enfin, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi?
Ça s'appelle M, Yolande Zimmermann, bien sûr, vous restez avec nous. Nadav Lapide, votre film.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable, odieux, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
C'est Yoav qui s'exprime, un jeune Israélien dépouillé à son arrivée à Paris, nu comme un nouveau-né dans une baignoire et qui va tenter de renaître en France. Voici le synopsis très réducteur de votre film, synonyme, Nadav Lapide. Yoav vient à Paris, comme vous l'avez fait dans la vraie vie, pour se sauver de son destin israélien. Pardon pour cette question très lourde, mais c'est quoi le destin israélien ?
C'est une question, bon, c'est une très bonne question. Je suis pas sûr que j'ai une très bonne réponse. Enfin, je pense que si vous auriez posé cette question à Yoav, il n'aurait pas été capable de vous donner une réponse concrète, mais juste continuer peut-être de verser à l'infini encore et encore un tas de synonymes. Et je trouve que c'est ça exactement l'angoisse. C'est-à-dire, une fois qu'il y a une réponse concrète, qu'est-ce que c'est le problème en Israël?
Oui.
Donc on rentre déjà au domaine peut-être d'une sorte de la politique dans le sens étroit du terme, parce qu'on se dit, donc il fallait faire ça. Ici, je crois que Yoav, enfin, le pays les rend fous, ou l'âme israélienne collective les rend fous, oui. Ou la haine des Israéliens les rend fous, ou il peut pas être Israélien alors qu'il est. Je peux tenter peut-être de caractériser la manière que le film, c'est-à-dire, dans le film, cette âme collective israélienne est portée sur les épaules de jeunes hommes virils, musclés, et forts, souriants, et qui adorent leur pays, qui détestent tout le reste, et fidèles à fond, et qui divisent le monde entre les nôtres et les autres.
Ou les perdants et les vainqueurs aussi.
Oui, les perdants et les vainqueurs.
C'est un pays où il est interdit de perdre, quoi. Selon la légende d'Hector, vous dites identification avec Hector du siège de Troie, donc, et cette idée interdiction de perdre qui est c'est bien ancré en Israël, ça.
Oui, c'est-à-dire, je pense que cette figure est si romantique du beau perdant, c'est pas quelque chose qui parle aux Israéliens.
Il faut dire qu'ils ont été beaucoup perdants, leurs ancêtres.
Oui,
hein,
oui.
Il y a quand même une perte originelle qui est forte.
Mais par contre, mais, oui, mais par contre, en tant que pays indépendant, on est toujours aux côtés d'une sorte de victoire et en même temps, on continue de perdre tous les temps. Mais bon, mais je veux dire, par exemple, vous, les Français, vous avez perdu pas mal de guerres et vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours là. Et par contre, en Israël, peut-être qu'on peut pas accuser l'Israélien vu l'histoire tragique du peuple juif dans le XXe siècle. Mais pour l'Israélien, il y a cette conviction qu'on peut gagner 10 000 guerres, mais une fois qu'on perd, on est foutu.
Vous-même, vous avez fait votre service militaire, Nadav, pendant 3 ans et demi dans un petit poste à la frontière syrienne. Vous le faites raconter d'ailleurs à Yoav, qui est Tom Mercier dans le film, au jeune couple qui l'accueille, Émile et Louise Chevillotte, et Quentin Dolmer. On écoute cet extrait parce que j'ai l'impression que c'est très proche de ce que vous avez vécu quand même.
Je vous ai déjà raconté comment je jouais de la mitrailleuse et perforais un terroriste arabe. Au poste frontière sur la montagne, il y avait une mitrailleuse. C'est moi qui la portais. Je la démontais, je la remontais. Rien d'autre. L'ennui. Un nouveau commandant est arrivé au fort. Un philosophe. Il a contemplé Beyrouth et Damas du sommet de la montagne et comme moi il a prié pour que la guerre éclate. Ce commandant fou m'a appris à jouer de la mitrailleuse. La mitrailleuse a une détente ultra sensible. Le vrai test du tireur, c'est de jouer du Pink Floyd. Ou I did it my way.
Nadav Lapid, ça doit être complètement schizophrénique de sortir de 3 ans et demi, effectivement, de confinement comme ça et de se retrouver dans la vie civile, intellectuelle, comme vous l'avez fait, parce que vous êtes retrouvé dans une rédaction après. C'est schizo.
Oui, je pense que peut-être c'est ça, d'une certaine manière, la chose la plus... C'est-à-dire, il y a, en Israël, puisque tout le monde passe par l'armée, les soldats, c'est toi-même, c'est ton père, c'est ta mère, c'est tes amis, tes cousins, tes frères, etc. Et donc il y a d'une manière inévitable, peut-être on normalise ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire on passe par 3 ans et demi de service militaire, mourir, tuer, faire la guerre, ou ne pas faire la guerre. Et un jour ça se termine, et le soir on boit un coup avec des amis dans un bar.
Oui.
Et le lendemain, on va, je sais pas, un entretien d'embauche, ou on va à Nantes un peu pour se relaxer, pour se droguer un peu. Et comme si rien s'est passé. Mais évidemment, quelque chose s'est passé. Je pense que c'est là où un monstre commence à pousser.
Et vous avez un déclic, pardon, vous comparez toujours à Yoav, mais c'est un peu autobiographique. Donc un jour, vous avez eu un déclic de partir, donc, sur la France. Parce que depuis longtemps, vous aviez une obsession de Napoléon.
Oui, enfin, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, j'avais une obsession.
Il a gagné et j'ai perdu. Hein,
je dois dire que les moments où j'ai beaucoup estimé Napoléon pour Austerlitz, etc. mais le moment où vraiment j'étais fasciné par Napoléon, c'est quand j'ai lu sur Waterloo. J'ai pensé 7 ans, 8 ans, c'était une sorte de petite biographie comme ça pour les enfants. Et c'était une des dernières fois de ma vie que je me suis autorisé à pleurer, parce qu'en Israël, après on rentre dans ces mythes qu'en tant qu'un homme, on pleure plus, etc. Mais là, vraiment, j'étais en larmes et j'ai fait la promesse de me venger des Anglais pour cette défaite. Et je pense que j'étais ultra-nationaliste français à l'époque. Jusqu'à l'âge de 10 ans plus ou moins. Mais chez nous en Israël, en plus, il y a une fête nationale où on se déguise. Ça vient de se passer, ça s'appelle Purim. Donc moi, 3 ans d'affilée, je me suis déguisé en Napoléon. Parce que le chapeau était trop petit. Mais...
Tout ça arrive à Yoav qui décide d'arriver à Paris. D'ailleurs, vous filmez Paris incroyablement. Vous filmez Paris en regardant le trottoir. Parce que Yoav, d'abord, c'est difficile de se filmer Paris après tous ces cinéastes qui ont filmé Paris, n'est-ce pas?
Oui, évidemment, c'était un des plus grands challenges, un des plus grands défis du film. Mais d'une certaine manière, c'est aussi très stimulant. Parce que vous, En tant que cinéaste, vous sortez un peu en duel contre d'autres cinéastes que vous admirez.
Oui.
Et donc c'est toujours fascinant.
Qui s'appelle Godard, Carax.
Qui s'appelle Godard, qui s'appelle Carax, qui s'appelle Truffaut. Enfin, plein. Je pense qu'il y a presque pas un seul cinéaste qui se respecte, qui n'a pas dans son CV un plan sublimissime de Paris. Donc du coup.
Vous dites qu'en hébreu, le mot mise en scène n'existe pas.
Ouais. C'est tragique.
Mais oui, c'est tragique. Et pourtant, il y a des grands films israéliens, c'est quand même dingue.
Ouais, c'est tragique, mais je trouve que ça influence beaucoup le cinéma israélien. Le fait que le mot mise en scène n'existe pas. Moi, j'ai découvert le cinéma à Paris, à cette époque-là.
Par un ami,
c'était, je pense, le plus beau cadeau que la France m'a offert. Et j'étais tellement détaché du monde entier que du coup, cette découverte m'a rempli d'une telle joie que j'ai cru que la seule chose qui préoccupe les Français, c'est la mise en scène. Enfin, j'ai cru que la France est une nation des gens qui se réveillent le matin et discutent la mise en scène.
C'est complètement fou.
Mais en rentrant en Israël, je me suis rendu compte que personne ne comprenait de quoi je parlais et il n'y avait pas un moyen de traduire. Et en même temps, c'était une sorte de souvenir, enfin, parce que on revient en Israël, on oublie tout après 2 semaines, quoi. On oublie le fait qu'on était ailleurs, c'est tellement intense. Mais d'une certaine manière, c'était ce terme mise en scène qui m'a rappelé qu'il y a un ailleurs, qu'il y a la France.
Mais vous inventez votre propre grammaire, hein, on peut dire, en cinéma. Parce que nous, on cherche des références. Donc, le manteau que Yoav porte, ça serait peut-être celui de Dernier Tango à Paris. On m'a dit que vous n'avez jamais vu ce film. Les grands appartements, pareil. Vous avouez que vous n'avez jamais vu le film. Vous avez dû voir des photos de Brando avec ce grand manteau.
Oui.
Mais on sent pas trop d'influence, quoi. Vous voulez vraiment inventer votre cinéma.
Je pense que d'une certaine manière, moi, mon désir ultime, c'est aller au fond de la vérité de cet instant concret et précis qui apparaît dans le film. Et je trouve que pour arriver jusqu'à là, on est obligé de trouver pour chaque instant son propre grammaire cinématographique. Sinon, on va pas jusqu'au fond. Et je pense que quand on utilise les grammaires des autres, c'est un aveu d'échec.
Alors, donc, vous faisiez référence à Napoléon, mais il y a aussi le coq français qui est évoqué dans ce cours de civisme et de citoyenneté dirigé par Léa Drucker, le coq français courageux, fort et se lève tôt. Et puis, il y a également une leçon de Marseillaise que votre héros absolument réclame de chanter.
Yoav, israélien, persécuté par la sécurité israélienne. Et seulement un peu plus fort, s'il vous plaît. Un mot sacré de la patrie. Conduit, soutien, brave vengeur. Liberté, liberté chérie. Combat avec tes défenseurs. Ce nous drapeau que la victoire. Sous nous, drapeau que la victoire, accours à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Fort, s'il vous plaît, fort. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. Quand sang impur abreuve nos sillons, quand sang impur abreuve nos sillons.
Nadav Lapidon, on l'écoute autrement, c'est vrai que c'est incroyable, c'est-à-dire, le sang impur abreuve nos sillons, c'est le sang de qui?
C'est le nôtre, non? Les étrangers.
Ouais, c'est comme ça que vous le percevez.
Il me semble. Je me suis dit que si on avait été à la radio israélienne, tout le monde serait levé là.
C'est vrai.
Oui. Pour l'hymne national quand même. Mais si on avait joué l'hymne national israélien.
Oui, j'imagine.
Oui, mais oui. Enfin, je crois que chez Yoav, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il a un mélange par rapport à la France. D'un côté, il veut se transformer en français lambda, en n'importe quoi. Et de l'autre côté, il a cet aspect peut-être bonapartiste, où il veut devenir l'empereur des Français. Il veut être l'étranger qui arrive en France et qui réforme le code français. Et qui devient l'empereur des Français. Mais son code français, c'est justement faire revenir la gloire perdue, ou comme il les voit, la gloire perdue, la gloire du passé français. Et dans ce sens-là, il chante la Marseillaise comme s'il était un ami des Roger de Lille, comme s'il est sur le champ des batailles, et les soldats français inondent l'Europe pour amener la...
C'est l'université de la République, en fait, là, oui, tout ce qui l'intéresse.
Mais en fait, qu'est-ce qui se passe alors? C'est parce que je peux vous poser la question à vous et à Yoav. Un Israélien qui veut plus être Israélien et qui va être finalement déçu par le fantasme français.
On sait qu'est-ce qu'est à la suite de chaque illusion, il y a la désillusion. Et de chaque enchantement, il y a le désenchantement. Et je pense qu'il y a un peu comme Candide de Voltaire, il fuit ce qu'il voit comme le pire pays possible pour arriver au meilleur pays possible. Et aucun pays ne peut pas tenir à telles expectations. Et chaque pays a ses défauts. Et d'une certaine manière, peut-être, il se rend compte dans le film que la France et Israël ne sont pas que des antonymes, ils sont aussi des synonymes.
Vous pourriez dresser la liste des synonymes dépréciatifs pour la France, comme le fait votre héros pour Israël.
Oui, allons-y, tiens.
Allons-y, oui.
Alors la France, c'est...
peut-être chacun parmi nous peut jeter un synonyme.
Mais pas vous. Vous dites la France est un soleil dans le cinéma, mais un soleil froid. C'est très drôle ce que vous dites. Vous dites en tant que cinéaste étranger, en fait, on vous demande d'apporter sur l'autel du cinéma vos blessures. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire ce que doit faire un cinéaste israélien, c'est ça en gros. Et on vous donne de l'argent pour ça.
Oui, enfin, je dois dire d'abord que je suis pas... Un peu comme Lady Havre dans les films, à un moment, j'aimerais pas, enfin, je suis très reconnaissant à la France, je vais pas du tout prendre une sorte de position d'ingratitude.
Mais
en même temps, je trouve qu'il y a, oui, il y a une sorte de un peu comme dans peut-être la belle période du colonialisme, où il y avait beaucoup de bonnes intentions. Donc, je pense que dans les relations entre les centres du cinéma, le soleil du cinéma, qui pour un cinéaste comme moi, enfin, il y a peut-être deux soleils du cinéma, l'américain et le français. Pour un cinéaste comme moi, c'est la France qui est le soleil du cinéma, parce que c'est vous qui avez le financement, c'est vous qui avez la gloire, qui amenait la gloire en forme de, je sais pas, Festival des Cannes, etc., etc., etc. C'est vous qui avez aussi l'outil critique, la pensée, la réflexion, la tradition, les revues de cinéma, la cinéphilie, les belles salles.
Arrêtez, non, je t'ai plus.
Les belles. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a nos blessures et nos désastres à amener à l'hôtel du cinéma français. Ouais. Donc il y a, moi j'ai encore un souvenir, mais encore une fois je dis pas ça forcément d'une manière ironique, j'ai un souvenir d'un très grand producteur français dans une réunion sur la coproduction entre l'Israël et la France qui dit, mais assez sérieusement, vous avez de la chance, les Israéliens, vous avez tant de guerres et tant de cadavres, et vous auriez toujours quelque chose à raconter. Donc parfois on a l'impression que c'est ça les dons que vous pouvez amener à la République.
En tout cas, vous avez fait un grand film, c'est pas israélien, vous avez fait un grand film tout court, qui s'appelle Synonyme, Nadav Lapid, Yolande Zuberman, grand film aussi qui s'appelle M, qui est sorti mercredi, et le vôtre sort mercredi prochain.
Et pour Yolande Zuberman, un livre, miroir, reflet du film, l'histoire de M au seuil.
Merci à tous les deux, vous restez bien sûr avec nous, on se retrouve pour les sorties de la semaine après Michael Chapman. Et également, votre film sera aussi au Festival du cinéma israélien.
Israélien, le 19e du nom, du 19 au 26 mars cinéma. À Paris, au cinéma Majestic, rue de Passy.
Measured words or thoughtless silence, which can hurt the most, which can cause the distance between two people once so close. We were so close. Mm-hmm. faces right from the start. But I remember all your glory, and you left something in my heart, in my heart.
Nos deux invités parlent ensemble, c'est très bien, ils ont vu leurs films respectifs. On va commencer par les sorties de cette semaine. En face de vous d'ailleurs, Yolande Zuberman, il va y avoir La Flore, partie 2 de Mariano Linas. Après le fantastique, le mélo musical, cette Flore deuxième partie ressemble à un film d'espionnage. Quatre agents secrets, quatre femmes doivent récupérer un scientifique kidnappé. C'est picaresque et poétique. On sait que l'ensemble dure à peu près 14 heures. Mais ça, c'est la deuxième partie de La Flore.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un cinéaste qui travaille le genre. Il a une citation très très drôle que je vous lis. Je ne crois pas qu'un cinéaste se dise, tiens, j'ai envie de faire un western. Et du coup, il faut qu'il tourne une scène avec un cheval. Non. Je crois plutôt qu'il se dit, tiens, j'ai envie de tourner avec un cheval. Et du coup, il écrit un western. Voilà. Mais c'est exactement l'esprit de ce film. C'est-à-dire une espèce d'esprit d'escalier permanent, de capacité de réinventer le genre. Et, Linas, il dit aussi, pour ce film d'espionnage, qui est un vrai film d'espionnage avec quatre héroïnes, il dit je suis moins allé vers le bon Melville, Jean-Pierre Melville, que le cheap et moyen Henri Verneuil. Mais j'ai fait un bon Henri Verneuil, ce qui est pas effectivement fréquent. Et cette façon de transcender les genres et d'aller clairement dans une cinéphilie, mais une cinéphilie décomplexée, c'est une fois de plus extrêmement plaisant. Continuez à aller voir La Flore. Cette fois, c'est le 2. On vous parlera des 3 et du 4 quand ils sortiront.
Ben, j'espère voilà. Bien. Ben, oui. Sunset, deuxième film de Laszlo Nemes, l'auteur du très remarqué Le Fils de Saul. Même dispositif, la caméra portée sur le personnage principal qu'elle ne lâchera pas. On est en 1913, au cœur de l'Empire austro-hongrois. Iris Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat et part à la recherche de son frère pour éclairer son passé. Alors autant le dispositif de la caméra sur la nuque du protagoniste et les flous et les sons hors champ marchaient sur le fils de Saul, motivé par le sujet, faire ressentir, sans la filmer, la mécanique implacable des camps, autant là elle reste vaine dans Sunset pour nous raconter une Europe au bord de la guerre. Ça reste théorique, abscon. Et terriblement ennuyeux.
Et oui, parce que ça dure en plus de 2h20. Oui. Alors il faut savoir qu'en fait, le Sunset était le premier film que voulait faire Nemes. Donc le procédé, il l'avait fait pour ce film-là. Et très curieusement, effectivement, là, pour moi, ça marche encore moins que pour le film précédent. En oubliant aussi, peut-être, parce que c'est une sorte de règle du jeu, Renoir dansait sur le volcan de 39, lui, il danse sur le volcan de 1913, en oubliant aussi que c'était une période, pour certains, en tous les cas, une période artistique, par exemple, très très riche, très très heureuse. Donc il a ce discours de théoricien qui ne colle pas du tout avec son propos.
Résistante de Fatima Sissani. Regard croisé de trois femmes engagées aux côtés du FLN sur la colonisation et la guerre d'indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l'hôpital psychiatrique, Laurent.
Oui, trois militantes de base, militantes anonymes qui seraient restées anonymes si effectivement Fatima Sissani ne leur offrait ce très très bel écrin, ce très bel hommage où on entend ces trois femmes parler, l'une d'entre elles est décédée depuis, parler de leur expérience, de leur militantisme, de ce qu'elles ont subi dans leur corps parce qu'elles ont été, pour certaines, torturées, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'a été la révolution et au fond, les entendre, ces femmes-là, s'exprimer encore en 2018, maintenant, avec ce qui se passe en Algérie, quand on voit sur au début du film, un panneau qui dit « Un seul héros, le peuple », et c'était déjà un slogan du FLN, eh bien, on se dit qu'il y a encore du boulot. Et ces trois résistantes-là, on a envie de les serrer dans nos bras. Voilà.
L'homme qui a surpris tout le monde, réalisé par un couple de cinéastes russes, Natalia Merkulova et Alexei Tchoupov. Aux confins de la taïga sibérienne, Igor, garde forestier et bon père de famille, et bon mari, respecté par ses quelques concitoyens. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant quand Igor découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable. Il va tenter de tromper la mort. Une rebouteuse, une chamane, lui raconte une vieille légende. Un canard mourant part se cacher parmi les femelles de la basse-cour pour contrer la mort, et ça marche. À partir de là, Igor va se maquiller et s'habiller comme une femme et provoquer la haine et la curée de toute la communauté. Histoire de raconter à travers ce récit la Russie de Poutine, violemment homophobe.
Oui, ben c'est formidable quand même, se transformer en femme pour ne pas être reconnu par la mort. Moi, je trouve ça, c'est un début de film extraordinaire. Et il tient, comme vous le disiez, la route dans ce contexte, en plus, effectivement, poutinien, où il est interdit absolument de parler d'homosexualité et des choses qui sont autour. Il faut dire que le Evgeny Tsivanov, qui est l'acteur principal, est formidable, que l'actrice qui joue son épouse a été primée à Venise, et ça n'est que justice. Donc c'est vraiment un film tout à fait beau, à la fois réaliste, cruel et puis poétique dans cette forêt sibérienne.
Leur souffle de Cécile Bénaud et Yvan Marchica. Alors, dans une abbaye bénédictine surplombant la vallée de la Durance à Jouc, il suit une sœur bénédictine. Il au pluriel.
Oui, c'est un couple de documentaristes. Oui. Il faut savoir quand même qu'elle a pris le voile à la fin du film. Alors là,
non.
C'est... Mais si, bien sûr. Donc c'est quand même le scoop, si vous voulez, du film. Mais ça ne. Oui, mais moi j'aurais aimé qu'on me raconte ça, parce qu'au fond, ça c'est l'histoire la plus intéressante. Parce que sinon, deux heures avec effectivement confit en dévotion sur le mystère de la foi qu'on atteint évidemment jamais à regarder ces stigmates extatiques et compassés, ça ne suffit évidemment pas. L'histoire du film, elle est ailleurs, elle est hors champ, et c'est bien dommage.
Mais qui propose encore ce genre de dispositif au cinéma? Un personnage vieillissant racontant en flashback sa vie. Eh bien, c'est Benoît Jacquot dans Dernier Amour, celui de Casanova, pour la Charpillon, qui l'attire au point d'oublier toutes les autres femmes. Elle lui pose un très grand défi pour un très grand séducteur. Elle veut qu'il l'aime autant qu'il la désire. C'est l'anti-Casanova de Fellini, le très sobre récit d'une défaite dans la société libertine du 18e, par parenthèse, dont Jacquot a su très bien capter les coulisses, des fêtes d'un homme qui découvre la douleur du chagrin. Est-ce cela qui fait que Vincent Lindon avance comme un automate, parle sans tonalité et chuchote tout au long du film? À force de pas forcer le trait, justement, Benoît Jacquot passe à côté de toute émotion. La douleur de cet amour interdit et ce trop-plein de retenue empêche donc toute empathie, Laurent.
Oui, et Jacquot, il se tire un peu une balle dans le pied dans le dossier de presse du livre, du film, pardonnez-moi, ouais. Parce qu'il a cette citation du Prince de Ligne que je vous lis. Ce serait, à propos de Casanova, qui est un contemporain, ce serait un bien bel homme s'il n'était pas laid. Il est grand, bâti en Hercule, mais un teint africain, des yeux vifs, plein d'esprit à la vérité, mais qui annonce toujours la susceptibilité, l'inquiétude ou la rancune. Lui donne un peu l'air féroce, plus facile à être mis en colère qu'en gaieté. Il rit peu, mais il fait rire. Moi, j'adorerais qu'on voit enfin ce Casanova-là, qui semble être le vrai Casanova, à l'écran, et c'est pas du tout ce que donne, hélas, Vincent Lindon.
Comprame Revolver, un revolver de Julio Hernández Cordón.
Bravo.
Ou comment raconter la violence des cartels en Amérique centrale et ses principales victimes, les enfants et cette petite fille qui doit porter un masque pour ne pas être kidnappée, cachée par son père toxico, larbin des narcos, parqué dans une caravane au milieu de nulle part, un décor de western, une grande tension dramatique, mais sans arriver quand même à la hauteur des références du réalisateur que sont Mad Max, Huckleberry Finn, ou Peter Pan, Laurent.
Oui, il y a quand même, il y a aussi un film qui traverse, c'est La Nuit du Chasseur, parce que
oui.
On pourchasse les enfants dans ce Mexique qui n'existe pas tout à fait, hein. C'est un Mexique entièrement aux mains des narcos, hein, il faut le dire, là c'est pas tout à fait le cas, ça va bientôt arriver, mais c'est pas encore le cas. C'est quand même une belle façon de mélanger un ultra-réalisme qui est dur, qui est prenant, avec une vraie poésie, avec les références auxquelles vous faisiez effectivement allusion.
On va terminer par deux festivals. Le Festival du cinéma israélien à Paris.
On l'a parlé, effectivement. Au Majestic Passy.
Le Festival Cérimania à Lille, une deuxième édition qui a démarré hier jusqu'au 30 mars. 70 séries au programme. Une compétition internationale, une nationale, un panorama. La nuit des comédies et des séances spéciales. Invité d'honneur, Uma Thurman. Sinon, des cadeaux pour nos invités, vite.
À la documentariste Yolande Zoberman, nous offrons 6 portraits XL de Alain Cavalier, le plus récent film d'Alain Cavalier, ou plutôt les films 6 portraits, donc chez Tamaza. Ce sont de Jacotte à Léon, en passant par Guillaume. C'est absolument merveilleux. Et puis, pour l'amoureux du cinéma français, Nadav Lapide, eh bien, ça sera tout simplement Le procès de Jeanne d'Arc d'un certain Robert Bresson chez MK2 et Potemkin. Le film date de 1962. Il dure 62 minutes. Tirez-en la leçon qu'il faut, c'est-à-dire il faut faire court parfois. Noir et blanc, ce sont les minutes du procès. Et c'est un film extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre. Et les magnifiques bonus de ce film où jouait Florence Delay, la future académicienne française.
Vous connaissez Bresson, bien sûr.
Oui, il paraît. Merci. Merci énormément. Merci.
Merci en tous les cas à vous deux. Merci Yolande Zoberman pour M qui est sorti mercredi. Très grand film. Oui. Et pareil pour vous, Nadav Lapide, pour Synonyme, mercredi prochain. On vous donne finalement les clés du générique. Je vous fais signe pour commencer. Au revoir.
une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs, il y a des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Claire Destacan.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Dalmas.
Et moi, Yolande Zuberman, j'y étais.
Et moi, Nadav Lapid, j'y étais.